Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, ce n'est pas d'un jour dans l'histoire, mais de trois jours que nous allons parler, puisqu'Henri Amouroux de l'Académie des sciences morales et politiques a bien voulu, pour Canal Académie, évoquer en une série de trois émissions les trois jours où Hitler a perdu la guerre. Henri Amouroux, bonjour.
Bonjour.
Et merci de votre présence en notre studio. Vous allez, dans cette première émission, raconter le premier de ces jours où, selon vos études, selon votre analyse, Hitler a perdu la guerre. Mais tout d'abord, une première question, monsieur Amouroux. N'est-il pas paradoxal de dire qu'Hitler a perdu la guerre en trois jours, alors que cette guerre a tout de même duré cinq ans ?
Oui, bien sûr, mais je suis journaliste, mais ce n'est pas du tout un titre journalistique, « Trois jours, Hitler a perdu la guerre ». Vous verrez, les auditeurs vont comprendre que c'est véritablement à cause des décisions prises ces trois jours-là que la guerre a été perdue.
Quel est le premier jour où la mauvaise décision ou la bonne décision pour nous, ça dépend de quel côté on se place.
La bonne décision pour nous, c'est le 14 septembre 1940, le jour où Hitler renonce à l'invasion de l'Angleterre. Bon, alors il faut se replacer, n'est-ce pas, en 40. Nous sommes en 40, il faut d'abord dire, rappeler que, bien entendu, tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme moyen technique n'existe pas. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas la télévision, il n'y a pas le téléphone portable, etc., etc. La France est battue, vaincue, l'armistice est demandé, les Anglais font capitale le jour même où Hitler envahit la Belgique, la Hollande, le Luxembourg et la France, le jour même, le 10 mai 1940, il se produit cet événement capital en Angleterre, Churchill remplace Chamberlain. Un homme fort, un homme décidé, un homme qui fumait le cigare, ce qui aurait été très mal vu aujourd'hui, mais enfin, et qui buvait du whisky en abondance, mais qui avait du caractère, remplace un homme qui certes était un homme de moralement très bien, mais qui n'avait pas assez de caractère, et dans ces événements, il faut des hommes de caractère, de préférence. Alors, la France est battue, et Hitler n'attaque pas tout de suite l'Angleterre. Il se donne un temps d'abord de reconstitution de son armée, de regroupement. Ce qu'on sait peu d'ailleurs, c'est qu'il dissout certaines unités, il démobilise certaines unités, et l'Angleterre, il faut l'attaquer par l'aviation. Il y a un bras de mer, il y a une mer, qui c'est plus la Somme, c'est plus la Loire, c'est plus la Seine, c'est beaucoup plus important. Et se pose à lui le problème qui s'était posé à Napoléon au moment de la constitution du camp de Boulogne. Je ne fais pas la comparaison entre les deux hommes, je fais la comparaison entre les deux situations. Pour attaquer l'Angleterre, pour envahir l'Angleterre au moment en 1802-1803, il y a le camp de Boulogne et Napoléon réunit une flottille très importante, mais il lui faut deux jours de liberté sur l'océan, sur la mer, pour passer de l'autre côté. Et ces deux jours, il ne les a pas, puisque la flotte française est battue à Trafalgar. Et on peut dire que Waterloo est inscrit dans Trafalgar. Trafalgar préfigure de Waterloo. Eh bien, pour Hitler, toute chose étant inégale, si vous voulez, sur le plan de la psychologie, mais sur le plan des événements militaires, c'est la même chose. Pour Hitler, il faut deux jours de liberté dans le ciel. Presque liberté dans le ciel. Pour de liberté dans le ciel. Presque liberté dans le ciel. Pour que ses avions puissent passer, pour que les bateaux qu'il a réunis sur la côte française, exactement, dans les mêmes ports où Napoléon avait mis ses bateaux. Bon. Donc, il lui faut vaincre l'aviation anglaise. Et ce combat, qui va être mené pendant jusqu'au 14 septembre, il continuera après par la suite, mais sous une forme très différente, ce combat va mettre en jeu très peu d'hommes. Très peu. 5 000 du côté anglais et 10 ou 12 000 du côté allemand parce qu'il y a des bombardiers allemands et que dans les bombardiers, il n'y a pas un équipage d'une seule personne, d'un seul pilote. Il y a un pilote, il y a le bombardier, il y a le mitrailleur de queue, etc. etc. Donc si vous voulez, 4 ou 5 000 pilotes d'un côté et puis 10 000 aviateurs de l'autre. Enfin, moins de 20 000 hommes en tout cas.
Moins et en matériel, en avion, combien? Quel est le rapport des forces?
À peu près 3000 chasseurs du côté anglais, à peine. Et du côté allemand, à peu près autant de bombardiers, beaucoup de bombardiers naturellement, dont des Stuka. Il faut savoir que ça sera pratiquement leurs dernières expériences. Ils seront retirés, ils avaient fait de gros dégâts pendant la bataille de France, ils joueront un rôle inférieur en Angleterre. Et donc, ce combat va être dans les airs. Ça va être un combat dans les airs. Et il y a un phénomène auquel on ne pense pratiquement jamais. C'est le suivant. Tout aviateur allemand dont l'avion est abattu au-dessus de l'Angleterre est perdu. Soit qu'il soit tué, soit qu'il soit fait prisonnier. Alors que pour les Anglais, c'est différent. Un avion anglais est abattu, d'abord c'est généralement un chasseur, c'est 8 fois sur 10 un chasseur, 9 fois sur 10 un chasseur. Le pilote, s'il saute en parachute, est sauvé, s'il n'est pas blessé trop cruellement. Arrêtons les chiffres, si vous voulez, au 1er octobre. Au 1er octobre 1940, il y a 1400 avions allemands abattus. Tous les aviateurs qui étaient dans ces avions sont tués ou prisonniers. Il y a 900 avions anglais abattus, et il y a 417 ou 427 morts. Je cite de mémoire, mais je
417,
suis...
417, je crois, oui. D'après les chiffres que j'ai lus dans vos papiers.
D'après les chiffres que vous avez, mais 417. Bon, 417. Donc, la moitié des pilotes peuvent, sauf ceux qui sont blessés trop cruellement, peuvent remonter et les pilotes reprennent un avion. Ils sont là. C'est très important. Car si on fabrique un avion rapidement, assez rapidement, il est très lent de fabriquer un pilote, surtout un pilote vraiment expérimenté. Alors la guerre va se dérouler avec un incident qui change brutalement le cours de la guerre. Les Anglais avaient un moyen technique qui nous est aujourd'hui très familier, puisque même les voitures ont ça, n'est-ce pas ? Nos voitures ont ça, un radar. Les Anglais avaient des radars, mais les radars, c'est un instrument neuf. La France, en 1940, n'a pas de radar, ou elle a deux ou trois radars, qui ont été procurés par l'Angleterre. C'était les Polonais qui, les premiers, avaient compris l'utilité, qui avaient volé aux Allemands le mystère des radars. Les Anglais ont des radars. Et les Allemands s'appliquent d'abord à bombarder les stations de radar, les terrains d'aviation de l'aviation anglaise, et puis les usines d'aviation, ce qui était logique. Et il se produit un incident, vous savez, beaucoup de choses dépendent quelquefois de hasard. Il y a un aviateur allemand qui, par erreur, car Hitler avait défendu de bombarder les grandes villes, défendu de bombarder Londres, défendu de bombarder Liverpool, qui bombarde un faubourg de Londres. Alors, immédiatement, la colère monte en Angleterre, Churchill intervient très violemment et il fait bombarder Berlin. La Russie fait bombarder Berlin par 60-80 centaines d'appareils anglais qui bombardent un faubourg de Berlin. Et on s'engage dans cette guerre de bombardement des villes qui n'a aucun sens. On a bien vu après, que ce soit les bombardements sur l'Allemagne ou les bombardements sur l'Angleterre, on a bien vu que les populations, certes, souffraient, mais que leur morale n'était pas brisée, contrairement à ce que l'on pensait. Alors donc, les Allemands s'engagent dans un bombardement des villes, se détournent des bombardements essentiels, le bombardement sur les radars, qui signalait la formation au-dessus de la France de ces troupeaux d'avions qui allaient après en direction de l'Angleterre et qui connaissaient comme ça leur direction et qui pouvaient faire s'envoler des terrains anglais, la chasse pour intercepter ces troupeaux de bombardiers qui venaient. On savait où ils étaient. Et donc, Hitler avait fixé, évidemment, une date à son débarquement. Car un élément très important dans cette guerre contre l'Angleterre, c'est l'élément du temps. Bien entendu.
Du temps, vous voulez dire du bon temps, du mauvais temps, de la météo.
Vous savez bien qu'au mois d'octobre, à partir d'octobre ou de novembre, ben, on ne peut plus débarquer en Angleterre. Voyons, les bateaux et la mer est mauvaise pour tous les bateaux, et pour les petits bateaux comme pour les grands. Il y avait réuni pour ce débarquement des petits bateaux, des barques que Hitler avait pris à l'Angleterre, à la Belgique, à la Hollande, tout un tas de bateaux de toutes catégories d'ailleurs, pour se débarquer. C'est pas du tout le même type de débarquement que celui qu'on connaîtra en Normandie. C'est un truc improvisé en quelque sorte en ce qui concerne les moyens de débarquement.
Et donc il avait fixé une date limite.
Qui s'appelait le jour de l'aigle et qui devait être le 14 septembre. La date sera reportée, mais la date finale c'était le 14 septembre. Et les Anglais, le 7 septembre, croient que ça y est, qu'il va y avoir l'invasion. Toutes les cloches se mettent à sonner. Les Anglais qui avaient perdu toutes leurs armes à Dunkerque et qui avaient mobilisé les anciens combattants, on leur avait donné des fusils de chasse, des bâtons, enfin bref, quelque chose de très sommaire dans l'espoir comme ça qu'ils arrêteraient l'invasion. Je ne sais pas ce qu'ils auraient fait. Mais bon, c'est le jour avec le nom de code Cromwell, où on dit, ça y est, les Allemands vont débarquer, et puis finalement, les Allemands ne débarquent pas, et les Allemands renoncent à débarquer le 14 septembre. Les Anglais célèbrent cette date le 15, ils renoncent à débarquer le 14 septembre, avec, en continuant naturellement la guerre aérienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les chiffres qui sont donnés sont des chiffres faux. Ce sont des chiffres qui étaient faits pour la propagande. Vous comprenez, par exemple, en Angleterre, les journaux du soir qui affichaient leur première page, ben, ils disaient 150 avions allemands abattus quand il y avait 70. C'était déjà beaucoup, 70. 70, c'était déjà un chiffre énorme. Les Allemands faisaient pareil. Si vous prenez les communiqués de la Luftwaffe, qui était reproduit dans les journaux de l'occupation, naturellement, dans les journaux imprimés à Paris pendant l'occupation, vous avez des chiffres qui sont absolument faux.
On multiplie par 3,
allègrement. On multiplie par 3, oui, à peu près 2,5, 3. Il faut le savoir, les chiffres sont faux. Mais il faut savoir qu'il y a eu en Angleterre un moment très difficile parce qu'il y avait une crise de pilotes. Les pilotes d'Angleterre, comme la France d'ailleurs, n'avaient pas préparé la guerre aérienne, c'était très mal préparé. La France encore plus mal, bien qu'elle ait été avertie, bien qu'elle ait été prévenue, car contrairement à ce qu'on croit, nous étions informés de la puissance militaire aérienne, allemande. Le général Villemain, qui commandait l'aviation française, avait été invité par son homologue allemand 2 ans avant le début de la guerre. Les Allemands avaient bien fait tout
voir.
Mais
on n'y a pas cru. On ne s'est pas préparé, en tout cas.
On a cru. On croyait tellement à la ligne Maginot qu'on n'a pas cru à l'aviation. Et d'ailleurs, le général de Gaulle, dont je vais dire un mot, ne croyait pas non plus beaucoup à l'aviation. Dans ses livres, il parle beaucoup des chars et très peu des avions. En revanche, lui qui se trouve en Angleterre depuis le 17 juin est l'un des très rares à avoir compris, et le dit dans son discours du 24 juin 1940, premièrement que la guerre serait une guerre mondiale.
Oui.
Qu'elle ne se limiterait pas au conflit franco-allemand comme où il y a eu 70, et les 14, 18, alors on recommençait, etc.
C'est pas le troisième épisode,
c'est une guerre mondiale. Certes, la première et la deuxième guerre mondiale, la seconde guerre mondiale était devenue, la deuxième guerre mondiale était devenue une guerre mondiale, mais après coup, lorsque les États-Unis interviennent. Parce que les États-Unis interviennent. Et puis de Gaulle écrit également que les alliances, et ça me permettra de parler du deuxième jour, ne sont pas éternelles. Il pensait à l'alliance entre la Russie et l'Angleterre. Et il disait aussi également, et ça m'ouvrira sur le troisième jour, nous avons été vaincus par 3000 ou 4000 avions, je ne sais pas combien il dit, nous vaincrons par 6 ou 7000, ça sera beaucoup plus. Nous avons été vaincus par 3 ou 4000 chars, nous vaincrons par 3 ou 4, 5 ou 6000, ça sera beaucoup plus. Ce n'est pas ça qui compte, c'est que ça sera évidemment un problème de disproportion entre les forces allemandes et les forces alliées. Et ça, de Gaulle est un des rares, Churchill l'avait compris, quelques autres l'avaient compris, est un des rares à l'avoir compris. Alors, les Allemands arrêtent leur préparatif d'invasion et ils défont leur camp de Boulogne, en quelque sorte. Napoléon, vous savez, avait défait lui aussi son camp de Boulogne, et il avait fait roquer son armée qui était allée vaincre Austerlitz. Bon, parce que l'Autriche avait déclaré la guerre. Alors lui, Hitler prépare son invasion contre la Russie, enfin, pas tout de suite, et puis quelles sont les conséquences pour la France? Il faut toujours se dire qu'un événement mondial, cet ordre d'idées, a des conséquences pour la France. Les conséquences pour la France, c'est Montoire. On croit que Montoire tombe comme ça, comme un obus. Non, c'est pas vrai. Montoire, ça a une raison. Le maréchal Pétain, le général Weygand, le général Weygand était à Alger, donc il n'est pas mêlé à Montoire. Les gens qui étaient à Vichy n'étaient pas des imbéciles. Ils savaient très bien que l'Angleterre, n'étant pas envahie en septembre, ne serait pas envahie avant juin-juillet 41. Et ils savaient aussi qu'entre septembre 40 et juin 41, il se passerait beaucoup de choses. Ils ne savaient pas quoi, mais ils savaient qu'il se passerait beaucoup de choses.
Que la France souffrirait, en tout cas.
Non, mais ils savaient qu'il se passerait beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que font tous les vaincus par rapport aux vainqueurs quand ils voient que la guerre va durer. Parce que si l'Angleterre était envahie, ça changeait tout.
Bien sûr.
Tout le discours, naturellement. Si l'Angleterre repoussait l'invasion, ça changeait également tout le discours. Là, il n'y a pas d'invasion. Ça change tout également. Alors, à ce moment-là, il faut se replacer à la situation de la France en 1940. La situation de la France en octobre 1940, est la suivante. Un pays coupé en 5 ou 6 morceaux. C'est un peu trop simple. La Moselle, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin sont immédiatement réannexés par l'Allemagne, qui en fait des États, qui en fait des départements allemands, des GO. Bon, 7 départements de l'Est deviennent zones interdites. On n'en parle jamais, ces départements de l'Est, jamais. Deviennent zones interdites où les habitants qui ont fui, parce que c'est là où s'est déroulé l'essentiel de la bataille, ne peuvent pas revenir, ils reviendront, mais 2 ans après. Et là, les Allemands installent dans ces départements, 7 départements qu'ils avaient peut-être, s'ils avaient gagné, l'intention d'annexer. Des chefs de culture allemands avec des prisonniers polonais ou des prisonniers marocains de l'armée française ou sénégalais de l'armée française. Le Nord et le Pas-de-Calais sont rattachés à l'administration belge-allemande de Bruxelles. Et il y a la ligne de démarcation, qui est quelque chose de très sérieux qu'on ne franchit pas comme ça. Il y a des points de passage obligés avec des gardes, des chiens, des mitrailleuses, des mitraillettes, etc. etc. Et la zone libre, qui est la zone la plus pauvre, la moins peuplée, avec le gouvernement de Vichy, plus, moins, 2 millions, 1 800 000 ou 1 900 000 prisonniers, dont au mois d'octobre, on ne sait pas encore pour les tous s'ils sont vraiment prisonniers ou morts.
On n'a pas de nouvelles des prisonniers.
On n'en a pas tout de suite. Et puis, il y a eu, sur une population qui comptait 40 millions d'habitants, 40 millions 500 000, 600 000, il y a eu 7 à 8 millions de personnes qui ont fichu le camp. L'exode, lorsque vous ajoutez 8 millions et 2 millions de prisonniers, ça fait 10 millions, ça fait le quart de la France qui est soustraite à la France ou qui est épandue là comme ça sur le sol. J'ai fait des calculs, j'ai fait des recherches pour un département. La préfecture d'un département a éclaté dans 17 ou 18 départements ou 20 départements. On trouve dans les journaux qui paraissaient en zone non occupée, comme le journal La Dépêche à Toulouse, on trouve des pages entières de petites annonces, non pas du tout pour des chiens et des chats perdus, non, pour des enfants perdus, pour des femmes perdues, des hommes perdus, et j'ai même trouvé dans La Dépêche un général qui, par petite annonce, recherchait sa division perdue. Alors, Montoire, qu'est-ce que c'est? C'est la recherche d'un accord, comme font tous les vaincus par rapport aux vainqueurs, pour essayer de trouver un désaccommodement.
Et la France payait en plus.
400 millions d'indemnités par jour. 400 millions.
Par jour.
Par jour, ce qui était une somme énorme, évidemment. Ça permettait de nourrir 3 millions de soldats allemands. Bon, il n'y avait pas 3 millions de soldats allemands sur le sol français.
Un jour dans l'histoire revient sur le sac du Palais d'été qui s'est déroulé en octobre 1860. Pourquoi le Palais d'été des empereurs a-t-il été pillé, saccagé puis brûlé à l'issue d'une expédition militaire franco-anglaise? Réponse en compagnie de l'historien Bernard Brisé sur Canal Académie, une émission libre écoute et libre téléchargement.
Alors, Hitler, c'est le maréchal Pétain qui est relativement demandeur. Hitler vient pas pour voir le maréchal Pétain d'abord, pour aller voir le général Franco, qui était le chef de l'Espagne franquiste, qui venait de gagner la guerre contre les républicains, une guerre qui avait duré depuis 1936, elle aussi. Et Hitler comprend qu'il ne va pas pouvoir attaquer l'Angleterre, qu'il faut qu'il passe maintenant au Maroc français. Il y avait l'Empire français, il y avait le Maroc protectorat, l'Algérie département français et la Tunisie protectorat. Puis après, l'AOF, l'AEF, etc. Donc, les marins allemands, qui eux, comprenaient les choses, disaient « il faut avoir le contrôle de la Méditerranée ». Si vous avez l'Italie ayant déclaré la guerre à la France le 10 juin 1940, si nous avons le contrôle de la Méditerranée avec la France, ça va gêner considérablement l'Angleterre. Et puis, nous aurons également le contrôle des côtes, et ça va considérablement gêner l'Angleterre qui se bat en Égypte.
Donc il faut que les Allemands aient Gibraltar.
Il faut qu'ils aient l'Espagne, Gibraltar. Mmh. Ils auraient pu d'ailleurs se passer de Gibraltar. On n'y réfléchit jamais assez souvent. On dit oui, mais il y avait la puissance anglaise et française en Méditerranée. Mais on ne réfléchit pas trois quarts de seconde. Qu'il y avait le Maroc espagnol. Or, le Maroc espagnol a besoin de pas du tout passer par Gibraltar. Il suffit d'amener des troupes par avion au Maroc espagnol. Et vous passez au Maroc espagnol.
Oui, donc ce n'était pas vraiment Gibraltar.
Il va voir Franco. Il va voir Franco et Hitler s'arrête à Montoire. Pourquoi Montoire? Parce qu'à Montoire, il y avait un tunnel très épais, qui fait que s'il y avait une alerte aérienne, on avait largement le temps de remettre le train d'Hitler sous le tunnel et qu'il ne risquait rien. C'est pourquoi on choisit Montoire. Et puis ensuite, n'est-ce pas, il a, il voit Laval, qui est tout étonné, tout ébahi, tout émerveillé. Enfin, émerveillé. Il a rencontré Hitler, vous pensez, c'était quelqu'un, Hitler.
Évidemment, oui.
Bon, c'est pas Hitler de 45, c'est Hitler de 40. Là aussi, il faut remettre les choses en situation. Et puis après, il va voir Franco. Et Franco, qui vient de sortir à peine de sa guerre civile, elle n'est pas finie, il y a encore des braises toujours chaudes, il suffit de souffler dessus, et il se dit « je ne veux pas partir en guerre avec l'Allemagne ». L'Allemagne m'a beaucoup aidé, l'Italie m'a beaucoup aidé, bien entendu, mais entrer en guerre, c'est refaire partir la guerre civile, c'est avoir immédiatement le blocus anglais. Et le peuple espagnol est affamé, comment vivrais-je? Je repars et... Et il y avait en Angleterre, en Espagne, un ambassadeur anglais très intelligent. Il y en a beaucoup qui sont très intelligents. Il était spécialement intelligent. Il écrivait à Churchill, il disait « Surtout ne vexez pas l'orgueil espagnol. Surtout permettez le ravitaillement par le Canada, par le blé canadien. Permettez le ravitaillement de l'Espagne. Il ne faut pas vexer les Espagnols. C'est un peuple fier, c'est un peuple orgueilleux. Ne le mettons pas contre nous d'une façon idiote. Ne en disons pas de mal. Soyons gentils, Franco. Et il ne faut pas qu'il s'allie. » Et alors Franco présente à Hitler une telle liste de revendications, le charbon, le blé, les armes, tout, parce qu'il dit Gibraltar, il faut que ce soit l'armée espagnole qui reprenne
Gibraltar. Trop d'exigences, alors.
Mais des exigences extraordinairement terribles. Comme si une femme demandait tous les bijoux du monde à quelqu'un qui lui fait la cour. Et on peut donner des bijoux, mais à un moment donné, il y a une limite. Bon, eh ben Hitler dit, moi, je ne peux pas donner tout ça. Et l'Allemagne n'avait pas tout ça, naturellement. Et d'ailleurs, se poser immédiatement vis-à-vis de la France. C'est passionnant, vous savez, cette histoire. On la raconte aujourd'hui d'une façon simplifiée. C'est grotesque. Se poser un problème très compliqué, c'est que l'Espagne disait « oui, bien sûr », disait Franco, « mais nous voulons le Maroc, et puis nous voulons une partie de l'Algérie ». Oui, mais l'Italie, qui était l'allié d'Hitler, disait « mais nous voulons la Tunisie, puis nous voulons une partie de l'Algérie ». Mais alors, ça remettait immédiatement la France dans la guerre, car la flotte française était au Maroc, elle était en Algérie. Et si
oui, il ne faut pas déplacer un pion, quoi. C'est comme un jeu d'échiquier.
Il
ne
faut pas déplacer un pion. Et puis il y avait l'AOF, il y avait Dakar, il y avait... Donc ça servait De Gaulle. L'alliance, s'il y avait eu l'alliance efficace, effective, entre Franco et Hitler, ça faisait basculer tout végan, tout ça, tout passait du côté anglais, naturellement, vous comprenez. Donc, alors, après, Hitler revient, et le 24, il voit...
Donc, on est le 24 octobre...
24, le maréchal Pétain.
40.
Et ça dure 1h15, j'ai eu, par le docteur Ménétrel, qui était avec le maréchal Pétain, c'était son médecin, qui avait noté exactement le temps passé, ça faisait 1h15.
Alors, 1h15 seulement, c'est pas très long.
Oui, mais 1h15, c'est très court, parce que d'abord Hitler parle, et il parlait longuement, il fallait traduire. Après, le maréchal Pétain parlait moins longtemps, mais il fallait traduire.
Au fond, ils n'ont pas dit grand-chose.
Ils ont parlé une demi-heure. De cet accord est sorti sous la plume du traducteur le mot qui a fait des dégâts effroyables, le mot collaboration.
Et c'est là qu'on l'a employé
pensez-vous, pas pour la première fois. Le mot collaboration se trouve dans l'article 3 de la Convention d'armistice. Mais ça consistait à dire qu'il y aurait une collaboration obligatoire entre administration française et administration allemande, c'est l'article 3. Bon, mais là, il est employé.
Et là, le mot a fait fortune, malheureuse.
Le maréchal Pétain le reprend dans son discours du 30 octobre 1940, il le reprend, et il le reprend d'une façon très malheureuse. Nous entrons aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Il écrit au général Végan, il n'est pas question du tout de collaboration militaire, il n'en est pas question, il n'en sera jamais question, mais nous demandons un assouplissement, moins, payer moins. Qu'on nous rende des soldats, nos prisonniers. Et non seulement les Allemands ne font rien de tout ça, Boutillier, qui était ministre des Finances de Vichy, prend une mesure, il suspend les paiements. Parce qu'il dit, du moment qu'il y a eu montoir, on suspend les paiements. Ça ne dure pas longtemps, ça dure 4 jours. Les Allemands disent, mais quoi, non, mais vous vous fichez de nous. Ah, vous allez payer, puis vous nous devez 4 jours. Donc ça fait 4 fois 4. Hein, 4 fois 400 millions, hop, qu'il faut payer. Quant aux prisonniers, ils libèrent quelques prisonniers, oui, dont d'ailleurs le général Juin, qui a été rendu grand service après à la France. Et puis, 15 jours, même pas, 10 jours après Montoir, ils expulsent 60 000 Alsaciens, des Lorrains francophiles, expulsés avec 20 kilos de bagages et envoyés comme ça à Lyon, où ils sont arrivés, où on les a mis dans les locaux de la foire exposition de Lyon. Alors vous pensez, le montoir dont on espérait des aménagements, ça s'est traduit en vérité par un durcissement. Alors Hitler reprend son train pour rentrer en Allemagne, chez lui. D'abord, il faut dire qu'Hitler n'était jamais pratiquement sorti de chez lui.
Mais ce n'est pas un grand voyageur.
Ah ben, ce n'est pas un voyageur du tout, mais c'est très important ce que je vous dis là. J'aurai l'occasion de le redire aux auditeurs de Canal Academy, pour lesquels j'ai beaucoup d'affection, ils le savent, car ce sont des hommes et des femmes qui aiment l'histoire, et ils ont bien raison. Et donc Hitler reprend son train. Il n'est jamais sorti, il ne connaît pas. Il est allé en Italie quelques jours pour voir Mussolini, mais 3 jours, 4 jours. Puis il est venu en France, mais il n'est jamais resté. C'est toujours resté chez lui, c'est-à-dire c'est un Autrichien qui détestait l'Autriche, qui n'aimait pas l'Autriche, qui va ensuite s'engager dans une armée, je crois que c'est l'armée saxonne, je crois. Enfin bref, en 14, il s'engage dans une armée allemande, pas dans l'armée autrichienne. Il fait la guerre contre l'Angleterre, jamais contre la France. Il rentre, alors il est dans son train. Il apprend là une nouvelle qui le stupéfie. Mussolini est entré en guerre contre la Grèce.
Sans rien dire.
Parce que c'était deux dictateurs, mais vous savez, c'est pas parce qu'on est dictateur qu'on aime l'autre dictateur. Il se jalousait. Mussolini, qui avait une antériorité comme dictateur, qui était d'abord le modèle des dictateurs, si vous voulez. Mussolini, qui avait reçu Hitler était un peu l'élève de Mussolini, d'abord au début, jusqu'en 1933-1934, après ça change très vite. Mussolini était furieux parce qu'Hitler ne le mettait pas au courant de ce qu'il faisait, ce qu'il allait faire. Il n'avait pas mis au courant du jour où il avait attaqué la France.
Il le traitait comme avec mépris, quoi.
D'abord, il se méfiait. Parce que l'entourage de Mussolini était souvent anti-hitlérien, anti-allemand. Il faut se souvenir que l'Italie était l'allié de la France en 1916, 17, 18, n'est-ce pas ? Donc, dans l'état-major italien, il y avait des gens qui étaient très francophiles, qui étaient hostiles à la guerre contre la France et contre l'Angleterre, et qui voyaient bien qu'en déclarant la guerre le 10 juin 40, alors que la France était accablée, que tout était perdu, c'est dégoûtant, c'est le coup de couteau dans le dos, c'est vraiment abominable. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Bon, Mussolini le croit en se croyant très malin. Ce jour-là, il se condamne à mort. Vous parlez des jours essentiels, ce jour-là. Il se condamne à être fusillé et à être pendu par les pieds ensuite avec sa maîtresse Clara Petacci à Milan. Voilà. Ce jour-là, il prend cette décision. Il se condamne à mort. Il ne le sait pas. Et s'il n'avait pas fait déclarer la guerre, c'est idiot, l'Italie aurait profité.
Gagné sur tous les tableaux.
Gagné,
oui.
Tout le monde lui faisait la cour à l'Italie. Les Anglais, les Américains, les Allemands, les Français, tout le monde. L'Italie bénéficiait vraiment de tout, alors qu'elle a souffert vraiment beaucoup. Il suffit de lire un grand livre qui s'appelle « La peau de Malaparte » pour comprendre ce qui s'est passé. Il revient. Il est là dans son
Donc,
train.
Donc Hitler,
il
est finalement, furieux, est furieux.
Ben oui. Il est furieux. Et il va, il arrête son voyage vers l'Allemagne. Hop, il va voir Mussolini en Italie pour lui dire « Comment vous avez déclaré la guerre ?»« Mais pourquoi ?»« Ah oui, bien sûr. » Hitler se soupçonnait Mussolini de vouloir déclarer la guerre. Il lui avait dit « Il ne faut pas déclarer la guerre. » D'où les troupes italiennes partent-elles? Il faut le rappeler. Pas aux auditeurs, encore une fois, je le répète, de Canal Académie, ils le savent. Mais enfin, j'ai peut-être quelques auditeurs qui ne le savent pas. À Pâques 1939, Mussolini avait attaqué l'Albanie, il avait pris l'Albanie très rapidement. Il était donc installé en Albanie. Ses troupes étaient installées en Albanie, voisine de la Grèce. Donc, ses troupes entrent en Grèce. Et elles entrent en Grèce, elles commencent par entrer en Grèce assez victorieusement. Et les Anglais qui se battent, il faut revoir la carte. Il faudrait presque que les auditeurs aient une carte sous les yeux. En Méditerranée, les Anglais se battent contre les Italiens en Libye et à la frontière libyenne et égyptienne. Ils se battent là. Ils se battent, il y avait aussi la Somalie italienne, il y avait la Bissinie qui était italienne.
Donc, et la Grèce, c'est pas très loin.
La Grèce, bon, c'est pas très loin, c'est quand même assez loin. Et puis, ils se battent, il y a des combats furieux autour de Malte, au-dessus de Malte. Et au-dessus de Malte, c'est là l'île qui fait le...
Et de la Crète aussi.
Oui, mais Malte essentielle. La Crète, c'était pas anglais, la Crète.
Non, mais il y avait quand même...
Non, mais la Crète, c'était pas anglais, la Crète. Attendez, on y viendra, la Crète. Oh, non, ne mangez pas le pain le premier. Mangez pas mon pain blanc. Comme ça. La Crète, on y viendra. Non. Non, on coupe pas ça.
Si, on coupera ma phrase, en tout cas.
Malte, c'était essentiel parce que vous passez les bateaux ravitaillés pour aller en Égypte. Hein. Bon, il fallait un point d'arrêt, c'était Malte. Hein. Or, il fallait atteindre Malte. Ils venaient d'Angleterre, ils passaient par Gibraltar. Hein. Et puis, il y avait l'aviation allemande, l'aviation italienne qui les interceptait, les sous-marins qui les interceptaient. Puis, ils allaient, eux, en direction de l'Égypte, du canal de Suez. Bon. Naturellement. Alors, Malte était essentielle. Et à un moment donné, à Malte, il n'y avait plus que 3 avions pour défendre Malte. 3 avions. On les appelait Foi, Espérance et Charité. 3 appareils de chasse. Il y avait des combats furieux autour de Malte. Et Mussolini attaque la Grèce en octobre, fin octobre 1940. Et il s'engage dans une voie qui va tout doucement nous amener à évoquer la deuxième journée qui fait qu'Hitler a perdu la guerre et peut-être, c'est une hypothèse, peut-être l'a-t-il perdu à cause de Mussolini. Le jour où Mussolini a déclaré la guerre à la France et à l'Angleterre, ce jour-là, il est devenu l'allié de l'Allemagne et c'était le
pire. C'était pas un bon allié.
Non, c'est pas ça. Les Italiens sont des gens très braves, très courageux, ils n'étaient pas adaptés à cette forme de guerre moderne. Et ils vont être très vite un poids lourd et bientôt un poids mort pour l'Allemagne. Ils ne vont pas rendre du tout service à l'Allemagne. Vous allez le voir, chers auditeurs, dans la deuxième journée. Cette deuxième journée que je vais vous raconter, dans laquelle Hitler a aussi perdu la guerre. Alors vous me direz, il a déjà perdu, il a repère. Parce qu'on ne sait jamais ce qui serait passé en Angleterre s'il était resté comme ça, si l'Angleterre et l'Allemagne étaient restés seuls face à face.
Henri Amouroux, vous venez donc de nous raconter le premier de ces trois jours où Hitler a perdu la guerre, 14 septembre 1940, quand il a renoncé à envahir l'Angleterre. Je précise à nos auditeurs que les deux autres jours font l'objet de deux autres émissions disponibles dans notre médiathèque.